France Inter.
Bonjour les Thériens, c'est Elzéar de l'Orme. J'ai 11 ans. Ce matin, c'était extraordinaire. J'ai écouté le gazouille des oiseaux dans mon jardin. Quel bonheur! En plus, il y en avait un que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais le week-end prochain, je ne sais pas si je pourrai écouter ce chant de la nature, car il se déroulera le rallye du Gier. J'ai trop mauvais souvenirs des précédents. Ça sent mauvais, ça pollue, ça fait du bruit même la nuit. Il y a même des Suisses qui viennent concourir ici, car chez eux, les rallyes sont interdits. Quand j'imagine tout ce pétrole brûlé pour rien, est-ce que je peux encore croire que les adultes deviendront raisonnables en pensant à notre avenir?
Allô, bonjour, c'est Guillaume de la Tour à Caravaggio-Louis. Je vous appelais pour concernant la possible création de nouveaux EGM qui seraient résistants aux maladies. En fait, je voulais juste qu'on m'explique quel serait l'intérêt des firmes comme Monsanto de fabriquer des plantes qui résisteraient à ces maladies vu que c'est eux qui vendent les produits chimiques qui permettent de s'en prémunir. Il y a quelque chose de totalement illogique là-dedans.
Bonjour, Nancy dans le Grand Luberon. Quand les humains vont-ils foutre la paix aux animaux? Quand on les tue pas, on les étudie en laboratoire, en captivité. Merci pour vos émissions passionnantes. À bientôt.
Oui, bonjour, je suis Christophe et j'appelle de Coufouleux dans le Tarn, à côté de Rabastens. Je voulais simplement vous parler du Festival des plantes sauvages qui se déroule le 30 et 31 mars à Coufouleux, donc avec des marchés de producteurs de plantes médicinales, aromatiques, des artisans. Il y a aussi des ateliers, des balades botaniques pour mettre en valeur le lien qu'il peut y avoir entre l'être humain et la nature. Au revoir, merci.
Je suis Didier à côté d'Angers. En écho avec la personne qui a laissé un message concernant la décroissance et la bifurcation, j'ai fait partie de l'équipe de Mathieu Orphelin pour les élections régionales en 2020. Je lui ai posé la question plusieurs fois concernant la décroissance, c'est-à-dire arrêter de consommer, donc des rentrées de TVA en moins, des impôts en moins. Comment faisons-nous à la suite de ça pour continuer à avoir un modèle social comme nous avons, à financer nos services publics, nos équipements, etc., etc. C'était en 2020. J'attends toujours la réponse et j'ai même entendu que en fait, la réponse, c'était très compliqué de la donner. Voilà, merci, à bientôt.
Merci Didier pour votre message. Eh bien, je profiterai de la présence de notre invité économiste tout à l'heure pour lui poser votre question. Donc j'espère que vous êtes à l'écoute. 01 56 40 45 45 pour nous laisser vos messages. La scène se passe en mars 1968 à l'université du Kansas aux États-Unis. Ce jour-là, le sénateur Robert Kennedy prononce son premier discours officiel dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle. Lorsqu'il aborde le sujet de l'économie, Bobby Kennedy fait une critique en règle du produit intérieur brut comme mesure de la réussite économique et sociale. Il évoque les limites des mesures économiques traditionnelles qui échouent, dit-il, à prendre en compte la qualité de vie et le bien-être des personnes. Ce discours est souvent cité comme une critique éloquente de la croissance économique au détriment des valeurs humaines et environnementales. Et il est le point de départ d'un livre qui paraît aux éditions Actes Sud et qui déconstruit le mythe de la croissance pour imaginer à quoi le progrès humain pourrait ressembler. Il est écrit par un économiste britannique dont les travaux font figure de référence pour les mouvements cherchant à molder un modèle alternatif au système économique dominant. De passage en France, il est notre invité cet après-midi. Tim Jackson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, à l'occasion donc de la sortie de cet ouvrage Post-croissance, sous-titré « Vivre après le capitalisme ». Vous êtes professeur de développement durable à l'université du Surrey aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, et vous êtes présenté comme un économiste alternatif. En 2015, vous aviez signé avec Thomas Piketty dans Le Monde un appel intitulé « Cessons d'investir dans les énergies fossiles ». Et en 2017, vous aviez publié en France « Prospérité sans croissance ». Dans votre dernier livre, vous demandez à quel nouveau monde nous pourrions rêver. On va en parler dans un instant avec les auditrices et les auditeurs de la Terre au Carré et les messages qui arrivent sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. La traduction de cet entretien sera assurée par Michel Zlotowski. Bonjour Michel.
Bonjour.
À 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Crenier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
au menu.
Une question débattue depuis des lustres, l'Anthropocène, période géologique ou pas ? Non, a tranché l'Union internationale de sciences géologiques.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Marie Potier à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je me demande comment vous justifierez à vos enfants votre échec et le fait que vous les laissez affronter un chaos climatique que vous avez sciemment provoqué. Juste parce que ça semblait tellement mauvais pour l'économie que nous avons décidé d'abandonner l'idée d'assurer un avenir décent sans même avoir essayé. Notre maison brûle toujours. Votre inaction alimente les flammes à chaque heure. Nous vous demandons d'agir comme si vous aimiez vos enfants par-dessus tout. Merci.
Voilà, Greta Thunberg à Davos en 2020, extrait d'une vidéo sur Brut. Tim Jackson, notre invité économiste donc anglais avec ce livre « Post-croissance, vivre après le capitalisme » chez Actes Sud. Et Greta Thunberg au Forum économique de Davos, c'est juste avant la pandémie. Et vous racontez une scène justement dans votre livre avec la réaction du secrétaire d'État américain juste après l'intervention de Greta. Qu'est-ce qu'il dit d'elle exactement ?
C'était Stephen Mnuchin. Discutait qu'elle devrait peut-être aller à l'école et apprendre un peu d'économie et puis venir ensuite à Davos pour que l'économie fonctionne. C'était un des moments qui, en tant que politicien, il va regretter à un moment ou à un autre. C'était vraiment une attitude très paternaliste.
Ouais, on sent que vous l'aimez bien, Greta Thunberg. Hein. Vous la citez à plusieurs reprises dans votre livre.
Oui, quand je regarde cette génération, ce qu'elle a inspiré, la génération des jeunes qui comprennent les problèmes, la situation dans laquelle nous sommes, qui comprend ce qui doit être fait, mon sentiment est que cette génération et le message qu'elle a, je me demande si mon travail n'est pas déjà fait, puisque maintenant j'ai peut-être déjà passé la main à une jeune génération qui comprend ces questions et les articule très clairement. Donc, je trouve que c'est très inspirant. J'espère de ne pas le prendre comme quelque chose qui n'a plus rien à faire, mais si, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une grande responsabilité sur l'ancienne génération pour améliorer la situation des jeunes. Et voilà, j'attends ce qui va venir de cette jeune génération.
Tim Jackson, quand vous allez au Forum économique mondial de Davos, dans cette station de ski où la neige disparaît un petit peu plus chaque année, qu'est-ce que vous vous dites exactement quand vous vous retrouvez au milieu de vos confrères économistes, mais qui ne sont pas franchement post-croissance friendly ?
Je ne me trouve pas souvent au sein d'une communauté d'économistes qui soit dans mon état d'esprit. Mais je pense que de plus en plus, on se rend compte que l'économie est inévitablement incrustée dans l'environnement, que nous vivons dans une planète qui a des limites et qu'on ne peut pas continuer avec cette croissance en expansion sur une planète limitée, finie. Et donc cette question des limites de la planète, du globe, pose des problèmes que les économistes ne peuvent pas, pour lesquels les économistes ne peuvent pas avoir de réponse. Donc ma demande, c'est créer donc une économie qui corresponde à une planète qui est limitée en ressources.
Les économistes sont des raconteurs d'histoire. Hein. Vous reprenez la formule d'un de vos confrères. Quelle sorte d'histoire ils nous ont raconté jusqu'à maintenant ?
Eh bien, jusqu'à présent, nous avons vécu dans un récit où on nous racontait qu'on pouvait en avoir toujours plus. C'était le mythe de la croissance. C'est pas ce que je raconte, c'est pas quelque chose contre les récits en tant que tels. On a besoin de récits culturels pour pouvoir vivre. Mais ce récit-là, cette histoire, ce mythe de la croissance nous dit que nous pouvons continuer à en avoir toujours plus, que la technologie va nous sauver, que les limites du globe peuvent toujours être repoussées ou surmontées. Et pour être honnête, on a vu l'échec de ce récit en termes économiques et aussi sociaux. Et donc ce modèle ne fonctionne plus.
Ça veut dire quoi qu'il ne fonctionne plus ? C'est-à-dire que l'équilibre, la stabilité est menacée aujourd'hui par un effondrement généralisé ?
En
termes écologiques, ça ne fonctionne pas parce qu'on crée trop de dommages à la planète, au climat. En termes sociaux, ça ne fonctionne pas parce que ça ne redistribue pas ses gains aux plus pauvres de la société. On devient de plus en plus inégalitaire. Et en termes humains, ça ne parle pas au développement de l'esprit humain. Ça ne développe pas l'art, mais c'est simplement de la consommation matérielle qui est satisfaite par le bling-bling et par en salissant la planète. Et donc, la stabilité sous-jacente a aussi disparu au cours des dernières décennies.
Sauf que, Tim Jackson, la croissance économique, elle a aussi permis à des millions de personnes dans le monde de s'extraire de la pauvreté. Elle a rendu quand même envisageable aussi un certain nombre de progrès sociaux, l'accès à l'alimentation, à la santé, évidemment, à l'habitat, à la mobilité. Tout ça, on ne peut pas le nier quand même. Ce sont des effets positifs aussi de la croissance.
Je suis tout à fait d'accord. I don't disagree with that.
Je ne suis pas en désaccord avec ça. Il faut accepter le fait que le modèle économique, à un certain moment, fonctionnait bien. Ça fonctionne encore bien pour une minorité de gens. Et c'est encore nécessaire, dans une certaine mesure, pour les plus pauvres du monde. Les preuves pour cela sont très claires. Si vous regardez les relations entre les revenus des plus pauvres et les indicateurs fondamentaux de la qualité de vie, comme la durée de vie, par exemple, vous voyez qu'un peu plus de croissance augmente de façon drastique votre santé, votre durée de vie, votre espérance de vie. Donc oui, de ce point de vue-là, l'idée que ce modèle a fonctionné jusqu'à un certain point ne devrait pas nous empêcher de nous rendre compte que ça ne fonctionne plus de la façon dont ça devait le faire.
Mais vous dites que le défaut majeur du capitalisme, c'est son incapacité à évaluer son point d'équilibre. Donc là, ce que vous nous dites finalement, c'est qu'on a dépassé ce point, qu'il est dépassé, largement atteint.
Mon approche, c'est que on a mal compris ce qu'était la prospérité. On a pensé que c'était simplement d'avoir plus de tout sans cesse. Mais quand vous demandez aux gens ce qu'est la prospérité, ce que ça signifie pour eux d'être bien, d'avoir une vie bonne, une des premières choses qu'ils disent, c'est la santé. La santé, les caractéristiques de la santé, c'est que il faut arriver à un équilibre. C'est ça la santé, c'est pas en avoir trop peu et pas en avoir trop non plus. Et comme Aristote a dit, ce point médian, ce qu'il appelle la vertu aristotélicienne, c'est ça l'équilibre que nous recherchons. Et le capitalisme a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est tellement en train de courir après trop qu'il ne reconnaît plus ce point d'équilibre. Et le deuxième problème du capitalisme, c'est qu'il cherche tellement vite pour plus que même s'il reconnaissait ce point, il ne pourrait pas s'arrêter quand il y arriverait.
Et Aristote, c'est toujours valable en 2024 ?
Aristote est toujours valable. Et dans ce cas-là, il est très valable.
C'est une valeur sûre. J'évoquais Robert Kennedy, qui ouvre votre livre, Tim Jackson. On va l'écouter justement. On a retrouvé l'archive de 1968. On rappelle donc le contexte. Il est en campagne pour la présidentielle. C'est son premier discours face à des étudiants à l'université du Kansas. Notre produit national brut dépasse maintenant 800 milliards de dollars par an. Mais ce produit intérieur brut ne tient pas compte de la santé des enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Le PIB ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement vers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et il peut tout nous dire à propos de l'Amérique, sauf ce qui fait notre fierté d'être américain. Pourquoi cet épisode, ce discours vous fascine, Tim Jackson ?
Mais pour beaucoup de raisons. Pour raisons personnelles, d'une certaine mesure. Je me souviens, lorsqu'ils ont découvert cet extrait que vous venez de passer dans les caves de l'université, moi je travaillais sur ces questions depuis 10 ou 15 ans, et d'entendre les mêmes idées dans la voix d'un homme politique d'importance du pays le plus important du monde, plus de 50 ans, il y a plus de 50 ans, eh bien c'était un moment de réalisation personnelle que nous avons eu des visions politiques suffisamment fortes pour pouvoir faire face à ces problèmes et à ces questions très complexes qui ont disparu dans les 50 années suivantes. Mais c'était un moment vraiment de leadership extraordinaire d'un grand homme politique aux États-Unis.
Et il le dit dans un contexte en 68 où la croissance est de 5% par an, hein, donc ça va plutôt pas mal. Hein. Le contexte est très favorable. Et pourtant, il critique le PIB. Hein.
Mais c'était un moment où le PIB était le plus élevé depuis des décennies. C'est un moment où il y avait tout type de choix qui auraient pu être faits par les gouvernants. Et un moment où Kennedy le désigne dans son discours, qu'il y avait de la pauvreté à côté de la richesse. Il y avait de la misère à côté de la richesse. Et il y avait du travail à faire pour créer une société plus égalitaire. C'était sa vision pour la présidentielle, malheureusement.
Il meurt trois mois plus tard, hein, après ce discours, hein, à Los Angeles.
Il est mort avant la fin de la campagne. L'événement final des primaires en Californie, il a été assassiné à l'hôtel au moment où il terminait son discours.
Tim Jackson, vous êtes l'invité cet après-midi de la Terre au Carré avec cet ouvrage Post-Croissance et des réactions à vos propos, des messages pour vous sur franceinter.fr. On se retrouve dans un instant, juste après Alyosha Schneider, ensemble.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
D'Alyosha Schneider sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Tim Jackson, économiste anglais, qui est notre invité cet après-midi à l'occasion de la sortie en France de ce livre Post-Croissance chez Actes Sud. Est-ce que d'ailleurs cette expression post-croissance vous semble bien comprise de la part du public? Est-ce que vous pensez que c'est un bon slogan pour être diffusé dans les idées?
Je ne suis pas sûr que ce soit un slogan. C'est une façon aisée de décrire la situation dans laquelle nous sommes. Ça a beaucoup à voir avec le discours de décroissance. Mais il y a une qualité réflexive aussi à se poser la question. Vivons-nous dans une société qui répond à nos demandes? Nous vivons sans beaucoup de croissance, donc on commence à comprendre cette situation. Dans une certaine mesure, nous sommes déjà dans une économie post-croissance, mais nous n'avons pas la compréhension de l'économie de la post-croissance.
On a Marjorie qui nous écrit sur franceinter.fr. Bravo de réfléchir à la post-croissance, mais il faut reconnaître que les utopies écologistes ont échoué à emporter l'adhésion de la majorité. Regardez par exemple la croissance des voyages en avion, dit-elle. Même de la majorité des jeunes, voir les monceaux de vêtements commandés en deux clics. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je ne suis pas tout à fait d'accord en ce qui concerne les jeunes. J'ai passé cette fin de semaine avec ma plus jeune fille, une nouvelle génération d'enfants, donc, qui adore beaucoup les vêtements d'occasion et pas tout ce qui sort sur l'Internet. Elle comprend dans une certaine mesure la mode dans le contexte de la post-croissance. Mais c'est vrai, bien sûr, que nos aspirations autour des voyages, des voyages aériens, bien sûr, sont des problèmes de mauvais côté de la société moderne. Je ne prétends pas que ça puisse être réglé facilement, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et c'est déjà non accessible à la plus grande partie du monde, ces voyages. Et ça va empirer, comme les ressources en énergie fossile vont devenir plus rares. Il faut nous préparer à ce monde, non pas en tant que vision utopiste, mais en tant que nécessité pragmatique pour le jour d'aujourd'hui.
On rappelle souvent ce chiffre dans l'émission, mais c'est vrai que c'est bon de le rappeler, il n'y a que 10% de la population mondiale qui peut se permettre aujourd'hui de prendre l'avion sur la planète. Donc ça ne représente pas non plus une grande partie de la population. Et c'est une critique aussi, cet ouvrage du consumérisme, Tim Jackson, on l'a compris, avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, l'idée effectivement que nous vivons dans un monde limité, et c'est tout le problème aujourd'hui du déni des limites physiques de notre planète. Et quand on aura compris ça, peut-être qu'on aura avancé aussi vers une autre voie, vers une autre façon d'envisager le monde.
C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Le capitalisme en soi est dans le déni. Il croit que nous vivons dans un monde sans limites et que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons. Quel que soit l'impact sur le globe, quel que soit l'impact sur les plus pauvres au sein de la société, quel que soit l'impact sur nos propres aspirations, notre propre humanité. Et par contraste, je crois qu'il y a une perspective qui nous dit, si nous reconnaissons les limites, si nous comprenons où se trouvent ces limites, à ce moment-là, on peut distinguer entre ce qui est limité, les ressources physiques, et ce qui est illimité, nos aspirations, nos idées, notre créativité, nos relations aux autres, à l'autre. Et c'est cette distinction que je veux encourager entre ce qui est limité, les ressources matérielles, et ce qui est illimité, l'esprit humain. Et ça nous montre la direction d'un nouveau, d'un autre type de progrès.
Donc on doit changer le logiciel pour apprécier autrement, au fond, hein, ce qui est souvent vécu aussi comme une proposition très punitive par certains. Mais vous, vous montrez le contraire, c'est que le bien-être peut se traduire autrement.
Oui, et le logiciel change. Le logiciel, ce n'est pas du hardware, justement. Ouais. Le logiciel peut être réécrit, et est réécrit. Il l'a déjà été réécrit.
Mais ce logiciel capitaliste-là, il est déjà en train de s'effondrer ou pas? Parce que vous citez des auteurs qui disent, ça y est, il est déjà en fin de vie, quasiment, là. Il est dans un état de mort imminente. Mais comment on peut le croire, ça?
C'est une discussion intéressante. Est-ce que le capitalisme est déjà terminé? Est-ce qu'il est en train de se défaire? Oui, d'une certaine manière, oui. Mais il tente de renforcer son logiciel interne qui s'étire déjà depuis plus d'un siècle. Et dans le processus, il est en danger de créer encore plus de dommages. Donc poser la question, quelle est la structure du capitalisme? Que dit son logiciel et que dit le hardware, c'est le point de départ pour un réexamen et se poser la question, comment est-ce que ce logiciel devrait fonctionner pour nous? Comment créer la vision et un jeu d'institutions et des logiciels pour ce nouvel avenir?
Question de Florent, encore sur franceinter.fr. Pourquoi le seul indice utilisé par les politiques et les économistes est le PIB? En ce moment, en France, Tim Jackson, on nous parle énormément du déficit, de la dette. Est-ce que, finalement, ils sont pas prêts à revoir tout le système, le logiciel dont on parle là, justement?
Mais il est grand temps de repenser cette mesure. Et en 2009, il y a eu un rapport célèbre qui a été commissionné par le président Sarkozy, ici en France, qui a porté le même argument que le PIB est une mesure limitée, qui ne mesure que l'engagement de l'économie, si vous voulez. Est-ce que les gens travaillent ou pas? Mais ça dit rien sur la situation des gens et de la planète, ou la distribution des revenus à travers la planète. Donc, cet indicateur est pas suffisant.
Oui, mais ils y sont pas du tout là. Si on prend juste la situation française, on ne parle que de ça là depuis quelques jours, du déficit, de la dette.
Je crois que la raison pour cela, c'est que même si le PIB est un mauvais indicateur en termes de compréhension du bien-être de la société, c'est un indicateur important pour la compréhension de la structure de l'économie. On peut parler beaucoup de la dette et de la structure de la dette, et on peut parler de qui paye la dette. Tout ça sont vraiment des sujets extrêmement importants, mais ils sont vraiment impliqués avec la structure pragmatique de l'économie. Mais c'est un problème différent de réfléchir à quel point nous vivons, est-ce que nous vivons bien, est-ce que signifie la prospérité pour les gens ordinaires, même lorsque nous avons de la croissance et du PIB.
Tim Jackson, deux questions très rapides avant de passer à la chronique de Camille. Toujours sur le déficit public en France, quel est votre regard là-dessus? Déficit abyssal, on le disait, 5,5% du PIB. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'économiste?
Je comprends que ce soit particulièrement important en ce moment en France, en raison des chiffres qui viennent d'être publiés. Le déficit va être encore plus élevé que ce qu'on espérait qu'il soit. C'est pas très différent du Royaume-Uni. Nous aussi, où on a un déficit du secteur public, nous avons un taux de 100% par rapport au PIB. Donc on a autant de dettes que de revenus. Il y a des choses importantes à dire à ce sujet. Ces dettes sont structurées autour d'un système financier qui suit un jeu de règles financières, qui suit un logiciel établi en 1992 par le traité de Maastricht. Et c'est vraiment un logiciel punitif pour un État souverain qui tente de poursuivre le bien-être de son peuple, parce que le gouvernement ne peut financer ce bien-être qu'en empruntant d'investisseurs privés auxquels il doit payer des intérêts à un taux élevé, quel que soit le taux d'intérêt. C'est un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches de la société.
Mais il va falloir la renflouer, cette dette, justement. C'est tout le problème aujourd'hui, avec des économies très importantes. Et est-ce qu'il ne faut pas non plus craindre que ce soit encore la porte ouverte à de nouvelles inégalités aussi?
C'est une autre mauvaise conception. Bien sûr, il faut équilibrer son budget. Il doit y avoir un petit peu de marge fiscale pour pouvoir faire les investissements que vous désirez en tant que gouvernement. Mais la façon dont c'est structuré, c'est important. La façon dont les transferts se font des plus pauvres vers les plus riches, c'est important. Et de ce point de vue-là, par exemple, vous savez, une maisonnée, c'est différent d'un gouvernement. Si moi, j'étais endetté à la hauteur de milliards d'euros, je serais en faillite parce que je n'ai pas d'actifs pour les couvrir. Mais si vous avez une banque centrale qui fait de l'argent, qui fabrique de l'argent, que le gouvernement peut dépenser pour le bien-être de son peuple, la seule limite, ce sont les règles établies sur à quel point cette dette peut être gérée.
Tim Jackson, vous êtes l'invité de la Terre au Carré.
France Inter, la Terre au Carré.
Pardon pour le retard, 14h33, on passe au vert, Camille Cronier.
Avec un mot qui fait beaucoup parler, anthropocène. Plus de 20 ans que la communauté scientifique en débat, tout a commencé en l'an 2000, quand Paul Crutzen, chimiste de l'atmosphère néerlandais et prix Nobel, appelle à en faire carrément une nouvelle période géologique qui succéderait à l'Holocène. Anthropocène, époque de l'humain, dont les conséquences des activités sont telles qu'elles viennent modifier les systèmes biophysiques planétaires à toutes les échelles. Les géologues s'emparent de la question, un petit peu bousculés, et le débat commence donc, on en a d'ailleurs parlé plein de fois dans l'émission, avec un point précis au centre des discussions. Le géographe Michel Lussault nous l'expliquait en 2021.
À partir de quel moment peut-on dire, et c'est ça la vraie question, que ces activités humaines ont non seulement un impact local, ça fait très longtemps qu'on sait que les êtres humains ont possiblement un impact local sur les écosystèmes, par exemple, mais à partir de quel moment les activités humaines ont-elles un impact global sur le système planétaire dans son entièreté ?
Quel serait le marqueur, le clou d'or, comme on dit dans le milieu ? Certains plaident pour le néolithique, quand les humains donc se sont mis à l'agriculture et à l'élevage il y a 10 000 ans. D'autres, pour la fin du 19e siècle, avec le début de la révolution industrielle. Et d'autres encore, 1952, c'est très précis, après des essais nucléaires qui ont entraîné des retombées d'éléments radioactifs. Un lac au Canada a même été désigné lieu emblématique, marqueur du début de l'Anthropocène, avec des sédiments qui portent toutes nos pires traces, radioactivité donc, mais aussi charbon, pétrole, plastique, etc. Mais c'est non. L'Union internationale des sciences géologiques et la Commission internationale de stratigraphie ont voté début mars, 12 voix contre, 4 pour et 3 abstentions, et publié un communiqué la semaine dernière.
La décision de rejeter la proposition d'une époque anthropocène comme unité formelle de l'échelle des temps géologiques est approuvée. Cependant, l'anthropocène restera un descripteur très précieux de l'impact humain sur le système Terre.
J'ai dit « Ah !» C'est bien.
Le géologue Patrick de Wever, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, approuve lui aussi donc.
Tout simplement, ça me paraît beaucoup plus logique. Parce que quand on fait une échelle des temps géologiques, c'est pour avoir des repères dans le temps. Et ces repères, ils sont fixés. C'est pour ça qu'il y a les clous d'or, donc des points significatifs. Mais le problème de cet anthropocène, c'est que justement, ce n'était pas un repère temporel. C'est un repère flou. Donc, ce n'est pas un repère. Il y a des collègues qui m'ont dit « tu es contre l'anthropocène ». Non, je ne suis pas contre cette notion. Je dis « ce n'est pas une ère géologique ». C'est tout.
Et Vincent Huot, qui est lui paléontologue et stratigraphe à l'Université de Lorraine, explique.
Les géologues n'ont pas juste piqué une crise et refusé d'entériner ça. C'est que ça ne respecte pas les règles qui sont établies pour n'importe qui. Moi, je suis en train de travailler sur une autre limite actuellement dans le Jurassique. Ça ne respecte pas du tout les règles qui sont établies pour définir une nouvelle unité. Si on compare ce qui se passe actuellement à ce qui s'est passé dans l'histoire géologique de la Terre, on s'aperçoit qu'en réalité, on est plus sur un événement. Alors, je sais bien qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on est à l'échelle d'un événement relativement bref à l'échelle géologique de l'histoire et qui correspond plus à ce qu'on a vu au moment des grandes extinctions, par exemple l'extinction des dinosaures avec l'impact de l'astéroïde de Chicxulub. On appelle ça un astroblème, un impact d'un blema, c'est le coup en grec. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un anthropoblème, un impact de l'homme sur la planète.
Pas mal l'anthropoblème. Mais sans nier donc, bien sûr, les conséquences de nos activités sur la planète, ça ne rentre pas, en fait, dans les cases, en gros, selon eux. Rien d'étonnant pour la philosophe de l'environnement Catherine Larère, qui a coédité le collectif Penser l'Anthropocène, mais elle regrette quand même la décision.
Pour moi, ce qu'il y avait de bien dans l'Anthropocène, c'est que ça montrait, parler d'Anthropocène, c'est dire, bon, les questions écologiques, climatiques, biodiversité, etc., c'est pas une question parmi d'autres. On va dire, il y a des questions sur l'emploi, il y a des questions, je sais pas, financières, et puis il y a des questions écologiques. C'était l'ensemble de notre condition humaine qui était marquée par le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. Je trouve que c'est utile pour prendre ça plus au sérieux. Voilà. Donc moi, je regrette.
Avec le risque en plus que certains climato-dénialistes ou rassuristes, pour ne pas les nommer, s'en emparent.
Ils vont sauter dessus pour dire, vous voyez bien que c'est pas important, les scientifiques le prennent pas au sérieux.
L'historien Jean-Baptiste Fressoz, lui aussi, est assez...
dépité, parce que je trouve dommage, parce que ça avait une dimension symbolique importante que ça soit reconnu par les géologues. Mais bon, enfin voilà, ça change pas grand-chose à nos problèmes.
Oui, parce que c'est vrai que pendant ce temps-là, le changement climatique continue de s'amplifier. Mais sur la dimension symbolique dont il parlait, Vincent Huot n'est pas d'accord. Non seulement il pense que entrer dans l'ère de l'humain pourrait en rassurer certains, une forme de validation finalement du technosolutionnisme, et surtout...
L'outil, la charte chronostratigraphique, donc l'échelle des temps géologiques, c'est pas fait pour faire de la politique ou pour faire du sensationnel, c'est des faits. Donc il s'agit pas d'en faire un outil d'une propagande quelconque ou d'une idée particulière. Enfin, je pense que c'est pas le bon endroit, quoi.
Autrement dit, qu'il ne soit pas utilisé pour faire de la politique, mais Catherine Larère répond ça,
J'entends bien, mais ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est que quelques décisions qu'ils prennent, ça sera de faire de la politique. D'une certaine façon, ils sont embarqués. Ce genre de décision, c'est pas neutre.
Voilà, le vote a peut-être eu lieu, mais le débat donc est encore loin d'être terminé.
Merci beaucoup Camille Cronier.
Tim Jackson, vous pensez en tant qu'économiste que ces géologues finalement ont raison de rester dans leur case. Ça ne rentre pas dans les outils qu'ils utilisent, mais ce n'est pas pour autant que l'Anthropocène n'est pas un marqueur de notre époque.
Nobody should really remain in their pigeonholes, for sure.
Personne ne devrait rester dans sa case. Mais bon, je pense que d'une certaine manière, quand ça devient une distraction, le but du langage, c'est de porter l'attention sur ce qui se passe, sur l'impact que nous avons sur la planète. Peu importe la datation, mais l'impact s'accélère au cours du dernier siècle. Et l'impact pour l'avenir, eh bien, ça fait peur. Ça exige notre action, ça exige notre attention, ça exige notre implication dans ces questions-là. Et si le langage, c'est l'anthropocène, est un mot qui n'est plus utile pour nous engager dans l'action, alors il ne faut pas passer trop de temps à se poser la question si ça existe ou pas.
Le capitalocène, est-ce que vous préféreriez ce mot-là?
Ah oui, c'est une de ces terminologies. En termes historiques, le capital est vraiment, c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire des sociétés. C'est un marqueur historique important. En faire quelque chose qui, dans 100 ans ou 200 ans, on pourra dire, ah oui, c'est le même statut géologique que d'autres périodes géologiques. Non, c'est l'avenir qui le dira.
Allez, Tim Jackson, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour discuter ensemble de cette vision de la post-croissance, parce qu'on aimerait bien en savoir plus sur la façon dont ça pourrait vraiment se concrétiser.
Stay.
C'est le retour de Norah Jones avec un nouvel album en extrait Running à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Une économie performante, c'est une économie qui arrive à faire l'économie d'elle-même, car au fil des années, elle nous permet de travailler moins, donc cette sphère de l'économie, elle rétrécit. Et donc là, moi j'aimerais bien, sur les années à venir, justement, si l'on arrivait pendant une transition décroissante à travailler, on passerait de 37 heures par semaine à 35, à 33, à 32, à 30, à 28, à 25. Et ça, on appellerait, ça serait pas inquiétant, on appellerait, ça serait du progrès. On pourrait se contenter tout en libérant des heures et des ressources disponibles pour faire des choses en dehors de l'économie qui sont beaucoup plus importantes pour le bien-être que la production de marchandises.
L'économiste français Timothée Parix, c'était en mars 2023 sur Xerfi Canal. Tim Jackson, vous êtes donc notre invité, vous-même économiste anglais. La question du travail, elle est absolument centrale dans cette économie de la post-croissance.
Absolument. C'est
très intéressant d'écouter ces remarques de Timothy, parce que moi j'ai une vision un peu différente. Il y a une occasion de travailler moins dans l'économie formelle, en ayant plus de temps avec nos familles, nos amis. C'est une des visions pour l'économie post-croissance. Mais on pourrait aussi travailler différemment, on pourrait travailler mieux. Et parfois, on pourrait se retrouver dans certains secteurs avec plus de demandes pour le travail. Par exemple, dans le soin, eh bien, il y a des tâches sans fin pour ce service humain du soin. Et c'est un secteur très, très difficile à technologiser, un secteur très, très difficile à le rendre plus productif, comme le capitalisme aimerait qu'on le fasse, et c'est un secteur essentiel pour le bien-être humain. Dans une certaine mesure, c'est un lieu où il y a plus de travail. C'est un bon récit pour que les gens puissent être employés et une économie dédiée aux soins, aux services, à la santé, à réparer nos bâtiments, créer une culture décente. Et ça ne voudrait pas dire moins de travail, en fait, mais un meilleur travail
et plus de travail. On s'est rendu compte à l'occasion du confinement pendant le Covid de l'importance de certains métiers par rapport à d'autres, et vous évoquez aussi les bullshit jobs, hein, ces boulots merdiques, dont vous dites que ce sont des emplois qui ne sont ni satisfaisants ni utiles à la société. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, sur les métiers du futur.
Oui, nous avons créé une société qui dénigre le travail comme activité valable. Il y a eu un moment pendant la pandémie où on s'est rendu compte de cette erreur, parce que tous ces gens dont on avait besoin au cours de la pandémie, et on pensait que c'était des citoyens de seconde zone, sous-payés, parfois pas payés du tout, c'était les infirmiers, les infirmières, les médecins, ceux qui nettoyaient. Personne n'aurait compris précédemment que les gens qui nettoyaient étaient les gens les plus importants de la société, alors que le virus se propageait par la contagion. Et tous ces gens-là ont été, si vous voulez, négligés par le capitalisme. C'était les cousins pauvres du capitalisme. Et pour comprendre que ces emplois sont au cœur du bien-être, s'ils sont structurés de la bonne manière, ils peuvent être aussi satisfaisants, bien payés, qui contribuent au bien-être de la société. C'est une révolution dans la façon dont on réfléchit au travail. C'est pas des bullshit jobs.
C'est pourtant, enfin, c'est eux qu'on a applaudi justement aux fenêtres, hein, pendant le confinement. Mais est-ce que c'est pas eux qu'on a à nouveau oublié aujourd'hui, Tim Jackson, hein?
C'est malheureusement le cas, oui. Ils étaient juste après la pandémie, quand on faisait face au coût de la crise, eh bien, il y a eu des appels pour mieux rémunérer ce secteur. Par exemple, les infirmiers, les infirmières, on les applaudissait à nos balcons et à nos pas de porte. On les paye, ils sont payés moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. En termes réels, ils ont eu des diminutions de salaire pour sauver nos vies. Et le monde politique, eh bien, il n'a pas suivi.
Message de Sandrine, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tim Jackson. Les capitalistes prédateurs ne sont pas dans le déni du fait que nos ressources sont limitées. Ils le savent. Juste, ils s'en contrefichent. Seul le profit à court et moyen terme compte.
C'est une chose importante. Mais disons-le ainsi, le récit du capitalisme qu'il se raconte à lui-même et qu'il nous raconte est qu'il n'y a pas de limite. Mais ceux qui fonctionnent en tant que capitalistes au sein du système capitaliste et sont à la recherche du profit nous racontent une histoire pour capitonner leur propre lit, comme on dit en anglais.
Tim Jackson, je voudrais qu'on réponde à la question de notre auditeur tout à l'heure sur le répondeur qui vous interrogeait, enfin qui posait la question en tout cas du financement des services publics. Si on imagine justement un monde avec moins d'entrées, moins de TVA, moins d'impôts, comment on peut conserver ce modèle social que chérissent beaucoup d'entre nous ?
Il y a quelques réponses à cette question. Comme je l'ai dit précédemment, pour comprendre le système monétaire, c'est comme un logiciel, c'est pas du hardware, c'est nous qui avons inventé ces règles. Nous avons inventé un jeu de règles qui rend le travail plus important, plus difficile pour le gouvernement de payer le bien-être des individus. Et on a inventé un système qui fait qu'on doit prendre des emprunts, on doit emprunter du privé pour le public. Et le public doit repayer au privé. Et donc c'est le privé, c'est les pauvres qui payent pour ça. On a créé les règles de ce système, on a créé ce système, et bien ce système, ce logiciel peut changer. Mais même au sein de ces règles, il y a une question de qui paye quoi pour cette dette. Et pour l'instant, c'est très inégalitaire. Les bénéfices des plus riches prennent avantage des paradis sociaux pour minimiser le poids des impôts.
Donc c'est eux qu'il faut faire payer ? C'est eux qu'il faut faire payer pour maintenir justement le modèle social ?
Oui, une partie de cela doit être rééquilibrée au sein du système existant, parce que pour l'instant, c'est les gens qui ont suffisamment d'argent pour prêter de l'argent au gouvernement profitent de cette dette. Si on réduit cette dette, si on l'équilibre, si on la rend plus égalitaire, plus juste, à ce moment-là, il faut réfléchir au rééquilibrage des impôts.
En tout cas, c'est un tabou encore hein, pour notre président de la République, en tout cas aujourd'hui.
Hein. C'est un tabou dans beaucoup de cas, mais la réalité, c'est que même au sein du modèle conventionnel, quand on l'a vu des statistiques, nous ne savons pas comment résoudre le problème.
Alors, Ève vous envoie un petit qualificatif sympa, je ne sais pas comment vous allez le traduire, Michel, elle vous traite de chef des bisounours.
Teddy bear.
Elle voudrait savoir, en gros, qu'est-ce que vous faites de la vie réelle, là, si je dois reprendre les propos du patron Total, Patrick Pouyanné.
Ma réponse, c'est que ce dont je parle, c'est de la vie réelle. Ce dont je parle, c'est de s'échapper du conte de fées, qu'on peut continuer à faire ce qu'on faisait par le passé, financer notre économie, surfinancer, déstabiliser notre économie et penser que tout sera rose à l'avenir. C'est pas un avenir que nous voulons pour nos enfants, donc il faut vraiment être dans le réel, s'occuper de la vie réelle. Et cette vie réelle commence avec des décisions pragmatiques. Qui nous imposons ? Combien ? Ce que nous investissons ? Où nous investissons ? Comment les communautés fonctionnent ? Et comment les gouvernements fonctionnent ? Comment on construit nos structures ? Comment on soutient les hôpitaux ? Le secteur du soin ? C'est ça la vie réelle.
Et ça, ce sont les fondements pour vous, justement, de cette société post-croissante ?
Dans une certaine mesure, oui. L'idée qu'il y a une économie fondamentale et que cette économie nous donne des aliments avec des régimes alimentaires sains qui payent suffisamment les gens qui s'occupent de nous, qui améliorent nos communautés et offre aux gens l'occasion d'être vraiment créatifs, de participer à la société. Ça, pour moi, ce sont les bases d'une future société.
Il y a certains points que vous citez. Hein. Cette économie de demain sera construite sur les énergies renouvelables et les technologies régénératives. Il faudra des accords salariaux justes et une gouvernance transparente et de l'investissement écologique. Ça, ce sont aussi les structures, hein, qui sous-tendent votre proposition ?
Oui, c'est d'une certaine mesure Ce modèle a un concept intéressant en termes d'investissement. L'investissement ne va pas là où il doit aller. Il ne va pas dans les nouvelles infrastructures de la société de demain. On subventionne encore l'extraction d'énergie fossile, bien qu'on sait que ça doit être arrêté. Et c'est un changement énorme que le marché financier, que le marché économique, que la réglementation doit mettre en place en une période de temps extrêmement brève. Quels que soient les changements au long terme dans notre vision sociale, on a besoin de cet investissement réel dans les renouvelables.
Mais comment vous appliquez tout ça dans un monde de nature compétitive, un monde compétitif ? En gros, à part si tout le monde fait tout d'un coup en même temps, comment on fait sinon ? Il y en a qui vont faire la course.
Mais c'est une partie de ce que je soutiens dans mon livre. C'est que cette compétition, cette concurrence égoïste est un des éléments de la psyché humaine. Et nous avons exagéré cet élément pour créer un système économique non seulement qui fleurit sur l'égoïsme, mais qui promeut l'égoïsme et la concurrence. Il faut réfléchir à une société qui est plus altruiste, moins égoïste, plus collaborative, et penser aux bases philosophiques, ce sentiment de nous-mêmes. Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains ? Sommes-nous vraiment ces consommateurs hédonistes, matérialistes, égoïstes, ou est-ce qu'il y a mieux à faire ?
Tim Jackson, justement, la montée des populismes partout dans le monde aujourd'hui, et en Europe également. De quoi elle est le symptôme, finalement, de ce que vous décrivez précisément, de ce déficit-là, au fond, de bien-être collectif ?
C'est le symptôme de l'échec du bien-être mondial, de l'échec du capitalisme, parce que c'est en essence non égalitaire, ça crée des inégalités et ça a fait des promesses qu'ils n'ont même pas essayé de remplir. Et ça a créé aussi, dans mon pays par exemple, ça a créé le Brexit.
Oui.
Ça a créé un nationalisme intérieur autodestructeur. On est en train de détruire l'économie britannique en ce moment. C'est comme si on prenait un fusil et qu'on se tirait dans le pied. C'est le résultat de la vente d'un mensonge à des gens ordinaires dont les conditions de vie se sont empirées. Et c'est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances-là, les gens vont commencer à voter pour des dirigeants qui promettent des choses qu'ils ne peuvent absolument pas livrer, promettre des choses que les gens veulent entendre.
Vous écrivez une phrase dans cet ouvrage, un gouvernement qui prétend se soucier du bien commun, mais qui agit en défenseur des élites, apparaît comme pire qu'un État admettant ouvertement la guerre de tous contre tous. Ça traduit aussi beaucoup de gouvernance aujourd'hui dans...
Malheureusement, c'est très vrai. Ça vient d'une expérience que j'ai eue en travaillant pour un gouvernement qui professait avoir des buts sociaux, qui s'occupait de l'égalité sur des promesses sur de l'environnement, et dans le même temps organisait un système financier qui créait de l'inégalité. C'était une tromperie, là, et une tromperie que les gens ont comprise très rapidement. Les gens ont regardé ça. Enfin, on dit que les gens sont idiots, qu'ils ne comprennent pas l'économie, qu'ils ne comprennent pas la politique. Mais non, en fait, ils ont compris la malhonnêteté. Ils comprennent ces illusions, qu'on leur a vendu quelque chose qui était faux.
Vous citez Greta Thunberg à la fin de votre livre, à nouveau, en disant, finalement, le peuple, il a un pouvoir énorme, c'est celui de descendre dans la rue, celui de voter aussi, évidemment. Ça, c'est une des clés, puisque vous évoquez aussi la désobéissance civile dans cet ouvrage.
C'est une question intéressante parce que nos démocraties politiques ont été fondées sur des principes de participation et des principes de représentativité. Et le principe de la désobéissance civile lorsque les gouvernements représentatifs ne représentent plus le peuple. La désobéissance a vraiment un pédigré de longue date et ça remonte au XVIe siècle. Ça a été repris au 19e siècle par des écrivains américains autour du mouvement des droits de l'homme, autour des les activistes, les militants pour contre le changement climatique. C'est une manière pour les gens d'exprimer leur opinion, particulièrement dans une situation où les gouvernements ne protègent pas les intérêts du peuple, comme dans le cas du changement climatique.
Merci beaucoup, Tim Jackson, d'avoir fait le détour par le studio de la Terre au Carré aujourd'hui. Merci, Michel Zlotowski, pour la traduction parfaite, comme toujours. Post-croissance, vivre après le capitalisme, c'est chez Actes Sud, dans la collection Domaine du possible. Bon retour chez vous, au pays du Brexit.
Merci.